Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées, parce qu'on ne les entend pas assez. Pour le premier épisode de ce nouveau format, j'avais envie de donner la parole à des artistes handicapés. Que ce soit par la danse, le dessin ou la peinture, ils nous parlent de leur passion et de comment leur pratique artistique les aide au quotidien, avec leur corps, leurs douleurs et leurs identités handicapées. En réécoutant les témoignages, je me rends compte que ça peut un petit peu sonner comme de l'inspiration porn, et que certaines personnes pourraient penser que ces témoignages sont là pour inspirer les personnes valides. J'aimerais donc préciser que ce n'est absolument pas le cas, que ce soit pour cet épisode, pour ces témoignages ou pour le podcast en général. Ce sont des témoignages et des tranches de vie de personnes handicapées qui parlent de leur passion, et ce n'est en aucun cas un épisode pour inspirer les personnes valides. J'avais envie de commencer cette nouvelle série d'épisodes avec des témoignages positifs qui parle de choses qui nous aident au quotidien, et je pense que c'est plutôt réussi. Je vous laisse avec les témoignages.
Gamine, il a fallu que je trouve comment me développer autrement que par le corps. Les enfants, ils débordent d'énergie, tu vois, ça court, ça saute dans tous les sens. Il y a tout chez eux qui semble s'exprimer par le corps. Et pour moi, qui ai un corps plutôt douloureux et qui peine à se mouvoir, l'observation du monde qui m'entoure finit par aboutir à la représentation du monde par le dessin. Et la pratique intensive, elle finit par donner un bon niveau selon les adultes, parce que c'est à travers au final de leur regard et de leurs remarques que je comprends qu'il se passe quelque chose au-delà du plaisir que j'ai, moi, à dessiner. Je suis poussée très tôt, du coup, dans cette direction, et c'est ça, clairement, qui va me permettre de continuer toute ma vie, c'est ces encouragements-là et cette valorisation-là. Moi, j'étais super mauvaise à l'école. Alors, pour une fois que j'avais... que j'étais forte à quelque chose, je m'y suis raccrochée très fort. J'avais envie, très tôt, dès l'école, qu'on me voit comme la gamine qui dessine bien et pas celle qui marche mal. J'avais envie de changer l'étiquette, en fait, qu'on me collait. Certainement que j'avais un besoin de reconnaissance aussi, sans doute. Mais il y avait un truc de cet ordre-là, quoi, de mauvaise étiquette, ou en tout cas d'étiquette peu valorisante qui m'était collée dessus, malgré moi. Parce que malheureusement pour nous, dans ce monde, on a beau être tout ce que tu veux, riche, talentueux, beau, célèbre, fort en cuisine ou un grand athlète, on reste avant tout handicapé. Et c'est l'identité dominante, en fait. C'est l'étiquette peu flatteuse qui bouffe toutes les autres. Complètement toutes les autres. Puis il y a un truc aussi de l'ordre de l'inconscient collectif, quoi. On est vu comme non productif et assisté et comme incapable, en fait, et vide au final. Ou en tout cas comme vraiment misérable dans nos vies. Ça, c'est quand même une idée commune qui est très répandue. Et ça, en fait, ça m'a vraiment boosté dans mon envie d'exceller et de me donner au max pour être au level de mon ambition, quoi. J'avais besoin de prouver et de me prouver que, en étant handi, que c'était possible et d'accomplir aussi ses rêves, et que je continue d'y croire très 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 fort, mon perso. Et donc au final, je termine aux Beaux-Arts après le bac, et j'enchaîne avec l'ERG, l'école de recherche graphique à Bruxelles. Et donc ça a fait des études super longues, et c'est ma revanche sur les années scolaires de merde. Et puis voilà, en fait, je me rends bien compte aujourd'hui que pour moi, ma pratique artistique, c'est toute ma vie, en fait. Et sans elle, il n'y a pas de sens. C'est ma façon d'apporter quelque chose, en tout cas d'avoir l'impression d'apporter quelque chose à la société. Ça m'a sauvée, tu vois, ça me sauve tous les jours de l'ennui, de l'angoisse, de trop réfléchir. Ça me permet de me lever le matin et d'être excitée aussi de ce qui va se passer demain quand je vais me coucher. Ça me permet de rêver, quoi, de construire l'avenir pour que mes rêves prennent vie. Et ça donne un but, en fait. C'est ça, ça donne un but. Et je pense que si la gamine que j'étais, elle me voyait aujourd'hui, je pense qu'elle se dirait bien « ouais », tu vois. Parce que c'était pas gagné, clairement, c'était pas gagné. Et puis... je trouve que j'ai une chance aussi incroyable d'être passionnée, parce que je sais très bien que si je meurs demain, je serai heureuse de mon passage ici, tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment une chance de ressentir ça et de pouvoir se dire ça.
Alors moi, c'est Maëlys. Je suis danseuse et chorégraphe handicapée. Je suis basée au Pays Basque Et aujourd'hui, je viens vous raconter comment la danse m'a permis de me réconcilier avec mon identité Andy. Mon premier contact avec la danse a eu lieu pendant mon adolescence. Chaque été, avec mes copines du centre de rééducation, on faisait des chorégraphies qu'on présentait aux autres enfants et aux éduques. C'était un moment que j'attendais avec impatience tous les ans, je m'en rappelle encore. On faisait tout ensemble, on dansait ensemble sur des musiques du moment, on mettait du maquillage, des costumes, c'était super. À l'époque, l'idée de m'inscrire à un cours de danse ne m'a même pas effleuré l'esprit. Alors pendant 10 ans, j'ai concentré tous mes efforts sur mes études, travaillant dur pour atteindre l'objectif ultime pour moi à l'époque, obtenir un bon emploi, bien payé. La méritocratie et la persévérance les guident dans un environnement si difficile. À 23 ans, ma santé mentale m'a contrainte à faire une pause lors de ma dernière année de master. J'ai dû me remettre sur pied progressivement et entreprendre une longue période de réflexion. Un tournant s'est produit lors d'une discussion avec ma thérapeute à l'époque à propos de la danse. J'avais découvert sur YouTube la compagnie californienne Axis, basée près de San Francisco, qui collaborait avec des personnes handicapées et non handicapées pour créer des pièces de danse. J'ai décidé de postuler pour leur stage d'été et ils m'ont accepté. Et c'est là que tout a basculé pour moi. J'ai non seulement rencontré des artistes handicapés exceptionnels, mais j'ai aussi réalisé que la danse était ma passion. Je me souviens encore de la phrase que j'utilisais à l'époque pour me décrire. « Je suis un cerveau sur un bout de bois. » Quelle horreur! Un an plus tard, de retour dans ma région natale avec mon diplôme en poche, j'ai commencé à travailler dans un emploi bien convenable, mais pas très bien rémunéré. J'ai continué à danser 2 fois par semaine, suivant des cours de danse contemporaine et de contact impro. J'ai participé à toutes les masterclass possibles avec des chorégraphes et artistes, souvent estomaqués, déconcertés, mais jamais vraiment hostiles. J'étais souvent la seule personne handicapée, mais ça j'avais l'habitude. En parallèle, je m'accordais des bulles de respiration, comme j'aimais bien les appeler. C'était dans des stages de danse inclusive, en Espagne, en Belgique ou en Angleterre. J'ai pu développer ma pratique, découvrir ma singularité et rencontrer d'autres danseurs et danseuses handicapées. Ces expériences m'ont ouvert les yeux sur les normes validistes prédominantes dans le monde de la danse. La danse, c'est souvent des techniques conçues pour des personnes de corps spécifiques. Ça limite la vision de la beauté corporelle, de la virtuosité. Et la danse impose une discipline et une rigueur qui exclut de nombreuses personnes. Mon engagement dans la danse m'a poussée à me questionner sur ces normes, à déconstruire mes propres préjugés validistes, ainsi que ceux des personnes valides qui m'entouraient dans la danse et autour. Ces stages ont été déterminants dans ma prise de conscience et dans la déconstruction progressive de mes préjugés validistes. J'ai réalisé que ma quête, pour correspondre aux normes, m'avait à la fois émancipée et aliénée. Je me suis souvent sentie prise entre deux mondes, celui des personnes valides et celui des personnes handicapées, me sentant toujours en décalage. J'ai commencé alors à reconstruire une nouvelle image de nos corps et esprits handicapés, les considérant comme des acteurs de la danse, des créateurs esthétiques dans leur singularité. Il y a 6 ans, après une longue période de chômage et de doute, j'ai pris la décision de me consacrer pleinement à la danse. C'était en saut dans l'inconnu, sans garantie de succès, mais ma passion l'emportait. Depuis, j'ai dansé dans différents projets en France. J'ai créé et dirigé Abra que ponerse cachas, un duo de danse inclusive en tournée depuis 5 ans. J'ai plus récemment collaboré sur Ice Age en tant que danseuse et co-chorégraphe avec la compagnie taïwanaise Resident Island Dance Theatre. La pièce a été finalisée l'été dernier et a déjà tourné en Europe, à Taïwan et aux États-Unis. Après un début de carrière indépendant et très international, j'ai fondé ma compagnie In Between en 2022 pour soutenir mes futurs projets de création et enfin m'implanter nationalement. Inutile de vous dire que la France est très en retard sur la reconnaissance des artistes handicapés. Il y a tout à faire et je suis déjà épuisée. Mais je compte bien développer mes créations, promouvoir la pratique inclusive et surtout le leadership des artistes handicapés dans les arts de la scène. C'est encore trop rare. Ce qui me motive dans mes créations de spectacles ou mes danses du jour sur Insta est de mettre en avant la complexité des individus, à la fois ordinaires et uniques. Je veux divertir tout en rendant visible l'invisible et en renforçant mon identité d'artiste handicapé. Je la revendique, cette identité, comme riche et positive, en dehors des normes et des attentes de dépassement de quoi que ce soit. Pour moi, la virtuosité se trouve à la croisée de l'intime et de l'ordinaire, du chaos et de la subtilité, de la puissance et de la fragilité.
Je m'appelle Mathilde François, Et je vis avec des douleurs chroniques et généralisées, très handicapantes depuis plusieurs années. Et je peins, je fais de la bande dessinée. Dans les deux cas, c'est deux pratiques artistiques qui me soutiennent et qui interagissent énormément avec mon handicap et ma vie quotidienne. Concrètement, j'ai commencé à peindre une série que je n'ai toujours pas finie, bien sûr, mais qui évolue avec le temps. J'ai commencé à peindre au début de mes douleurs chroniques. Il y a clairement un style qui évolue et en même temps, il y a aussi clairement un fil qui se déroule. Au début, j'étais vraiment très orientée vers des corps déformés. Tout mon travail a porté sur des corps déformés par la douleur, avec un choix d'un médium plutôt à l'encre, parce que l'encre est un peu comme l'aquarelle, elle va être très aqueuse, et donc on va vivre une sorte de vibration du trait qui, moi, m'apaisait en quelque sorte. J'avais l'impression de négocier avec le trait. Et toute cette période a consisté à mettre en scène l'expérience de la douleur. Clairement, les corps distordus et des corps inhumains, pour moi, c'était, comment dire, une manière de construire ma légitimité. Je me sentais le besoin de construire la légitimité de mon expérience de douleur chronique pour être en empathie avec moi-même, pour faire alliance. Parce que, clairement, la douleur chronique est invisible, d'autant plus qu'on a une injonction énorme à la compenser. Et la douleur des femmes, elle est niée. Enfin, toutes les oppressions se traduisent dans une sorte de déni médical. Ce qui fait que moi, j'ai des douleurs depuis très très longtemps, mais je dois apprendre aujourd'hui, j'ai dû apprendre à les reconnaître, à me reconnaître comme légitime et à reconnaître mon expérience de douleur. Donc j'ai ces corps-là, j'ai aussi... en fait, ce que je souhaite quand je pratique ce travail de peinture, c'est vraiment me mettre dans un état de flow très connecté à ce que je vis quand je suis en crise. Mais je peins pas toujours pendant mes crises parce que j'en suis vraiment pas capable physiquement. Mais par contre, après des crises de douleur, je me reconnecte à cette expérience. Et ce qui m'intéresse là, c'est d'être dans une manière de raconter cette expérience qui va ne pas avoir de filtre, contrairement à quand tu parles de ton handicap ou de tes symptômes dans un contexte social. Il y a une forme d'intimité, d'injonction à l'intimité quand on est handicapé, je trouve. On nous demande de parler de notre corps, enfin, on nous demande de justifier plein de choses. Et en même temps, il y a une sorte de rejet de la vérité. C'est-à-dire que je pense que je ne suis pas la seule à dire, si je vous raconte vraiment tout le dossier médical ou tous les détails de mes symptômes et de mon expérience de corps, vous allez vraiment être un peu choqués, quoi, et dégoûtés, entre guillemets. Donc là, je m'autorise. Et puis, je m'autorise aussi des espaces de métaphore que je ne m'autoriserai pas en espace médical. C'est-à-dire que si je dis dans l'espace médical, j'ai l'impression de vivre avec une colocatrice qui est ma douleur, qui est cette grosse masse sombre que je représente sur de nombreuses peintures, ben, je m'inquiète un peu de comment ça va être perçu, j'ai peur de ne pas être bien comprise. Donc je m'autorise, voilà, et par exemple ça donne, je les ai sous les yeux là, ça donne des peintures que j'ai appelées les manches-pieds, qui sont des personnages qui ont beaucoup d'auto-agressivité et qui s'attaquent eux-mêmes et qui mangent leurs membres eux-mêmes. Ça, typiquement pour moi, c'est très apaisant parce que oui, il y a une auto-agressivité en douleur chronique. Et si je la fais pas sortir par le dessin, quand est-ce que je l'exprime? Qui peut l'entendre, quoi? Donc il y a une dimension assez thérapeutique au sens où c'est légitimement. Moi, ça m'a permis de faire ce qu'on va dire une sorte de coming in et de coming out handy, quoi. Ça m'a permis de me sentir autorisée à vivre ce que je vivre et à le reconnaître et à le prendre en compte. Et également, il y a une autre dimension intéressante, enfin qui m'a intéressée, c'était de récupérer mes imageries médicales et de les reprendre. C'est-à-dire de peindre les images d'IRM qu'on m'a données. Parce que ça m'agace, en fait, que des docteurs aient produit des images à partir de l'intérieur de mon corps sans, bien sûr que j'ai consenti, mais c'est des images, quoi qu'on en dise, c'est des photographies. C'est comme si quelqu'un avait vos photographies de famille et que vous les aviez pas, quoi. Donc je les ai repeintes à l'encre de Chine, et ça m'a beaucoup apaisée aussi pour me connecter avec le dedans. Parce que être malade chronique, c'est avoir une conscience de son intérieur en permanence. Par opposition, être en bonne santé, c'est ne pas penser à l'intérieur de son corps. Et donc en conclusion, clairement, Je vois qu'il y a une évolution avec les années. C'est-à-dire que une fois que je me suis donné la légitimité de peindre mes ressentis de la douleur, les corps distordus, les corps violents et violentés, une fois que j'ai hacké la filière des images médicales, je me vois aller vers des images maintenant aujourd'hui qui sont plus des hybridations de corps dans l'exploration des différentes manières d'être vivant, et je le connecte directement au fait que je suis beaucoup plus connectée aujourd'hui à des collectifs en lutte, qui revendiquent leur manière d'être vivant au monde, non pas comme une anomalie, mais comme une manière d'être vivant totalement légitime. Donc là, j'ai plus de peintures hybridées entre des corps et des animaux, des corps et des plantes, peut-être des machines aussi. Voilà.
Merci aux personnes qui ont participé à cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. Je rappelle que tous les épisodes du podcast sont disponibles sur toutes les applis de podcast habituelles, donc Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Et également sur YouTube en vidéo sous-titrée et en retranscription sur mon site hcommanditpodcast.fr. Je voulais également remercier toutes les personnes qui prennent le temps de m'envoyer des messages sur Facebook, sur Instagram ou même des fois par mail pour me dire que le podcast les aide d'une quelconque manière et qu'elles apprennent des choses. Ce genre de retour, c'est hyper important parce que ce podcast est un projet 100% bénévole et que je perds de l'argent plus que je n'en gagne. Donc vraiment, c'est hyper important pour moi d'avoir des retours et de savoir que mon travail est utile. Donc voilà, merci vraiment aux personnes qui prennent le temps de faire ça. Et j'encourage celles et ceux qui n'osent pas et qui sont silencieux et silencieuses. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurices dans ce cas-là. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est vraiment très important. Et si vous le voulez et si vous le pouvez, vous pouvez aussi me soutenir financièrement via mon compte PayPal ou via ma boutique Ko-fi, où vous pouvez trouver de très jolis stickers. Encore une fois, tous les liens sont disponibles sur mon site hcommanditpodcast.fr. Voilà, l'instant publicité est terminé, cet épisode est terminé. Encore une fois, merci à vous de l'avoir écouté et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau format d'épisode avec un mini-épisode recommandations culturelles.